C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Alors si je n'ai pas pu vous dire bonjour juste avant, j'espère bien le faire après. Ça fait quand même un an que je n'ai pas été avec vous. Et c'est pas facile hein, de ne pas vous voir autant que ça. Donc moi, ça me fait très plaisir d'être au milieu de vous. J'aimerais vous dire un tout petit peu par rapport à hier. Donc, peut-être certains d'entre vous, vous êtes nouveaux et vous ne connaissez pas tout à fait l'histoire, mais il y a une dizaine d'années, donc ça fait déjà un moment en arrière, eh bien, je suis venu sur l'église de Toulon, ici, et j'ai fait, donc avec mon épouse, enfin, je veux dire, j'ai fait ici un stage de 2 ans, un stage pastoral, donc comme Luciano, et après quoi, comme vous aviez un projet d'église sur hier, eh bien, vous m'avez demandé si je considérais vous aider avec ce projet, donc nous sommes partis sur hier, et nous sommes donc pas très loin, et ça fait seulement 4 ans finalement que nous ne participons plus au culte ici, ou de façon très ponctuelle comme aujourd'hui ou une fois par an. C'est vrai que ça nous manque. Là, le projet de hier est encore sous l'égide de cette église, hein, puisque nous ne sommes pas partis, nous ne sommes pas indépendants. Et donc, ce matin, alors que je vais parler de la prière, eh bien, justement, j'aimerais que vous priez pour nous, priez pour cette église. Prier, ça signifie apporter cette église devant le trône de grâce régulièrement, justement pour que cette église prenne son envol. Et j'aimerais que vous nous aidiez de cette manière-là. Puis aussi, bien sûr, prier si vous n'avez jamais vu les lieux là-bas, ce qui s'y passe, les frères, les sœurs, eh bien, ça serait bien de venir nous encourager, et puis ça nous aiderait, ça vous aiderait aussi de prier de manière plus concrète. Voilà, donc pensez à cette église de hier. Vous avez bien sûr les salutations de tous les frères et les sœurs de cette église. Alors, je vous disais ce matin que j'aimerais parler de la prière. Alors, je vous ai mis certainement une diapo qui a ce thème-là. J'ai récemment lu dans un livre sur la puissance de prier ensemble de Oliver Price, c'est le nom. C'est un livre qui m'a énormément aidé. Alors, ce n'est pas une bonne chose si ça commence comme ça. Voilà. C'est un livre qui m'a énormément aidé dans la préparation de ce message et le développement des choses. Mais ce que j'aimerais aussi dire simplement, hein, c'est que c'est la Bible. Notre message vient de la Bible qui transforme les vies. Et j'espère que ce matin, vous êtes à l'écoute justement de cette parole. J'ai confiance qu'on vient ici parce qu'on a envie d'apprendre des choses du Seigneur et parce qu'on veut les mettre en pratique dans notre vie. Alors, lorsque je regarde la prière, en fait, je trouve dans la Bible des promesses époustouflantes. Vous lisez des versets, vous tombez dessus et vous demandez « Mais qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur ?» Et j'aimerais justement avec vous parcourir plusieurs de ces versets. Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander un quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quand même fort comme verset, n'est-ce pas? Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Toutes ces citations, bien sûr, viennent de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, quand on regarde ça, et je vous pose des questions par rapport à la prière, souvent on dit, mais Dieu, quand on prie, il répond par un oui, par un non, ou par un attends. Regardez ces versets. Vous avez l'impression que c'est le cas? Faut arrêter de tourner autour du pot, là. C'est pas ce que ces versets nous disent. Il y a marqué quoi il y a marqué des choses très fortes ici. Regardez bien. Cela sera accordé ici. Je le ferai. Je le ferai. Il vous le donnera en mon nom. Demandez, vous recevrez. Dans ces versets, il n'y a pas la place pour non ou à temps. Ou peut-être à temps. Mais il n'y a pas la place pour non, certainement pas. Alors il y a dans ces versets plusieurs clés par rapport à la prière, c'est peut-être ça qu'il faut regarder. Une des clés, c'est de parler, c'est de prier ensemble. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque. Voyez, on peut parler de prier à la maison, mais c'est important de prier en tant qu'assemblée, de prier en tant qu'église. C'est pour ça que la rencontre de prière est importante. Il y a une puissance dans la prière ensemble. Il y a une autre clé, et c'est la clé que j'aimerais couvrir ce matin, la clé dont j'aimerais parler, en mon nom. Vous voyez que ça revient ici dans les versets choisis. Assemblée en mon nom. Demandons en mon nom, en mon nom, en mon nom, en chaque fois, au nom de Jésus-Christ. Et donc ce dont j'aimerais parler ce matin, c'est de prier au nom de Jésus-Christ, je l'ai mis tout en haut ici en titre, prier au nom de Jésus, puissance et signification, parce qu'il y a une puissance derrière l'utilisation du nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus, mais peut-être encore faut-il comprendre la signification de cela. Alors, la première chose quand on parle de puissance, c'est, on regarde ces versets, on dit oui, il y a une puissance, oui, il y a une promesse, des promesses qui sont époustouflantes. Et j'aimerais dire quand même qu'on a besoin d'arrêter de placer Dieu dans un cadre. Vous savez, souvent quand on prie, on est là et on le fait tous, on est en train de se dire, voilà, Dieu il répond à certaines prières et pas à d'autres. Il y a certaines choses que je peux prier, pas d'autres, parce que oui, bon, bien sûr, je suis chrétien, en plus je suis pasteur, donc je ne vais pas dire que Dieu ne peut pas, bien sûr, il peut, mais peut-être il ne veut pas, ou je ne sais pas. Arrêtons de placer Dieu dans ce qui est possible et impossible. Vous avez déjà vu ça? L'urgent est fait. L'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. Si vous avez un chef qui a ça sur son bureau, ou peut-être vous l'avez vous-même sur votre bureau, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous demandent plein de choses. Peut-être votre chef est en train de vous demander des choses, mais vous faites des choses extraordinaires déjà, mais alors là, ce qu'on vous demande, ça relève du miracle, un peu exagéré, ça relève de l'impossible, on va dire. Et donc, pour l'impossible, pour ce qui n'est pas tout à fait facile à faire pour le commun des mortels, eh bien, il faut prévoir un délai. Vous êtes tenté de mettre ça au bureau, hein? Demain, sur France 3, il y aura un reportage. Un phénomène étrange dans une ville du Sud-Est. Une recrudescence d'une citation sur le lieu de travail. Mais peut-être on a tendance à projeter cette manière de penser lorsqu'on parle de la prière. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dans Marc chapitre 11, nous lisons, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Soyez honnête, on a des problèmes à comprendre ce verset, n'est-ce pas? C'est pas facile. Comment est-ce que il nous dit, voilà, vous croyez, vous le verrez s'accomplir. C'est bien plus que la puissance de la pensée positive. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est plus, il est dit, c'est plus que ce que nous demandons ou pensons dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 ici. Arrêtez-vous une minute pour penser à ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans cette Église, dans votre vie. Je vous demande vraiment de penser là, pas juste de m'écouter. Pensez, pensez à une ou deux choses extraordinaires que Dieu pourrait faire. La Bible dit qu'il peut faire plus que ça. Il peut faire plus que ça. Il peut faire plus que ce que vous pouvez imaginer ou penser. Alors, c'est bien tout ça, mais peut-être il ne veut pas. Oui, il y a des promesses époustouflantes. On a besoin d'arrêter de placer Dieu dans un cadre. Dieu peut et veut satisfaire à tous nos besoins. C'est vrai. La Bible le dit aussi, « Ainsi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Donc il y a bien d'autres versets, ça s'est tiré de Philippiens chapitre 4, bien sûr. Oui, il veut et il peut satisfaire à tous nos besoins. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Peut-être un peu de semer le trouble. Mais on a besoin de regarder la Bible pour ce qu'elle dit, pour la comprendre. Il y a des promesses époustouflantes. On a besoin d'arrêter de placer Dieu dans un cadre. Je veux donner juste une illustration de plus, parce que effectivement, quand on prie, on est là et on est en train de se dire « Mais peut-être Dieu il va faire ça, si je prie que telle personne pardonne à une autre ». Ben, ça me paraît plausible. Ou si je vois quelqu'un qui a le cancer, et bon, c'est pas trop avancé, on sait qu'il y a des gens qui sont bien, ça s'est bien passé avec la chimio et tout ça, donc on peut prier pour ça, et puis Dieu peut faire ça, voilà. Mais si c'est à un stade très avancé, là on sait qu'il n'y a plus d'espoir, donc pourquoi prier pour ça, vous voyez ? On place Dieu dans un cadre, c'est comme ça qu'on est dans notre façon de prier. On a besoin d'arrêter ça, nous dit la Bible. Et on a besoin aussi de comprendre que Dieu, même individuellement, il veut satisfaire à mes besoins. Alors, peut-être en disant ça tout au départ, ne méprenez pas à ce que je suis en train de dire, hein, il faut en rester exactement à ce que j'ai dit. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus en conclusion. Mais j'aimerais passer au deuxième point ici, c'est la signification de prier au nom de Jésus. La signification, c'est peut-être pas ce que l'on croit, et c'est peut-être là où il y a une clé importante. Premièrement, prier au nom de Jésus. Ça n'est pas une formule. Quand on prie, souvent, à la fin, on dit « Nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ ». Et maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une seule prière dans le Nouveau Testament qui se termine par « Au nom de Jésus-Christ » ? Et la réponse est non. Vous n'avez pas une seule prière dans le Nouveau Testament qui se termine par les mots « au nom de Jésus-Christ ». Et si Jésus avait voulu que nous terminions nos prières en ajoutant ces mots « au nom de Jésus-Christ », quand il a dit à ses disciples « demandez au nom de Jésus-Christ », pourquoi est-ce que Paul n'a pas dit ces mots en terminant ses prières ? Alors, est-ce que c'est mal de terminer nos prières en disant « au nom de Jésus-Christ » ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque si on demande l'idée de demander au nom de Jésus-Christ, si on ajoute ces mots, on peut le faire. Il y a dans le Nouveau Testament des personnes qui sont baptisées au nom de Jésus-Christ, ou bien on va dire, ou il y a un apôtre qui va dire « Lève-toi au nom de Jésus-Christ » à quelqu'un qui ne pouvait pas se lever. Donc il y a des actions qui sont faites comme ça, avec ces mots utilisés. Mais ce que je suis simplement en train de dire, c'est que si vous pensez avoir demandé à Dieu quelque chose au nom de Jésus-Christ simplement parce que vous avez utilisé les mots, la formule à la fin de votre prière, vous faites fausse route. Carrément. Et je répète ça parce que c'est quand même important. Si vous pensez avoir demandé au nom de Jésus-Christ simplement en utilisant cette formule au nom de Jésus-Christ à la fin de votre prière, vous faites fausse route. Et je fais fausse route. Ça n'est pas une formule magique. D'ailleurs, pour étayer cela, beaucoup de chrétiens utilisent l'expression au nom de Jésus-Christ sans avoir aucune assurance que Dieu va répondre à leur prière. Ou bien, si vous ouvrez vos Bibles, alors c'est vrai que j'ai projeté pas mal de versets et c'est facile de faire ça lorsque justement on parcourt un certain nombre de versets, mais dans Actes au chapitre 19, il y a quelque chose d'intéressant sur des gens qui faisaient justement au nom de Jésus-Christ certaines choses. Je lis Actes chapitre 19. Dieu faisait des miracles extraordinaires, verset 11, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Et l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, et vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce n'est pas une formule magique qui marche. Dans Matthieu, au chapitre 7, verset 22, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça fait réfléchir, ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire tout simplement que je suis en train de dire tout simplement ici que non seulement ça n'est pas une formule magique, premier exemple, mais en plus il y a certains qui vont utiliser la formule, on va dire, qui vont même réussir à faire des miracles, et qui n'appartiennent même pas à Dieu, qui vont se retrouver de l'autre côté, pas au paradis, mais séparés de Dieu éternellement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas une formule. Si vous avez un chéquier, tout le monde n'est pas autorisé à signer vos chèques. Et tout le monde n'est pas autorisé à dire, on va dire, au nom de Jésus-Christ, comme pour signer une prière. Alors, pour comprendre ce que cela veut dire, au nom de Jésus-Christ, je vous invite à regarder un texte dans Matthieu 8. Matthieu 8, donc c'est quand même intéressant comme texte, donc ouvrez vraiment vos Bibles, Matthieu 8 au chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. » Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, c'est en poursuivant dans notre lancée ici, quand je parle de la signification de prier au nom de Jésus-Christ, j'ai dit que c'était prier au nom de Jésus-Christ n'est pas une formule, et là je suis en train de dire que ça, prier au nom de Jésus-Christ signifie le représenter parfaitement. Et vous allez comprendre dans un instant ce que je suis en train de dire. Jésus va dire que ce centurion a ici une compréhension qui dépasse la compréhension des autres, même des juifs. Et cette compréhension lui donne une foi extraordinaire. Un centurion est en fait le plus haut gradé parmi les soldats. Un soldat, c'est le plus haut qu'il peut avoir. Donc c'est quelqu'un d'important. Si vous regardez César, au départ, qui a une grande autorité, César va déléguer son autorité, son pouvoir à un centurion, avec sans doute des intermédiaires. Mais ce que ce centurion a, essentiellement, c'est l'autorité de César. Il peut dire à un serviteur, fais ceci, il le fait. Il peut dire à n'importe qui ce qu'il veut, et la chose arrive. Quand le centurion parle, ça bouge. Alors, cette partie-là, on la comprend facilement, parce qu'on peut se dire, ben oui, forcément, lorsque le centurion parle, il a l'autorité impériale, l'autorité de César, donc ça bouge. De la même manière, on peut dire que lorsque Jésus parle, il a l'autorité de Dieu le Père, donc ça bouge. Jésus, il a simplement qu'à dire un mot et dire, voilà, mon serviteur, que son serviteur soit guéri, et le serviteur est guéri. Seulement, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Regardez le verset 9. « Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. » C'est intéressant parce qu'il ne dit pas « Car moi aussi, on me donne l'autorité d'au-dessus. » Il ne dit pas ça du tout. Il dit « Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. » Et le mot ici, les mots « moi aussi », vous ne les voyez peut-être pas dans votre traduction, mais ils sont dans le grec, on la trouve dans la traduction d'Arbi. « Moi aussi », ça veut dire que tout comme toi, Jésus, moi, je suis placé sous l'autorité. Je ne fais pas ce que je veux. Je représente César. Je fais ce que César veut. Je suis placé sous autorité. Il y a quelque chose d'important ici. Voyez, c'est une clé. Je représente parfaitement César. Je ne fais pas n'importe quoi. Imaginez que, puisque les États-Unis ont décidé de donner une taxe au Roquefort de 300%, une taxe d'importation, ils ont augmenté ça récemment de nouveau, imaginez que j'aille faire exploser un McDonald's, connaissez l'histoire. Donc je vais là-bas avec un groupe faire exploser McDonald's, je fracasse les vitrines, j'agresse les employés. Et puis un employé m'agresse. Eh bien, je me tourne contre cet employé et au nom de la loi, je vous arrête. Qu'est-ce qui cloche avec mon histoire là ? Premièrement, vous allez me dire, je ne suis pas policier. Effectivement, donc je ne pourrais pas dire ça. Mais imaginez que j'étais policier. J'ai fait n'importe quoi juste avant. Je n'ai pas respecté la loi. Comment est-ce que je peux dire au nom de la loi, je vous arrête? Comment est-ce qu'un centenier, un centurion peut dire telle ou telle chose s'il ne représente pas César, il n'a pas cette autorité de César? Pareillement, Jésus-Christ représentait parfaitement Dieu, le Père. Jean chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Ce n'est pas en mon propre chef, je ne suis pas venu dire les paroles que j'ai envie de dire, c'est au nom de mon Père que je suis venu. Jean chapitre 12, verset 49, « Je n'ai point parlé de moi-même, c'est Jésus qui dit ça, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Imaginez ça, Jésus-Christ, Dieu lui-même, vient sur cette terre et il ne fait pas ce qu'il a envie de faire, ce qu'il veut. Imaginez ce que le texte dit ici. Je ne dis que ce que le Père m'a dit de dire exactement comme il me l'a dit. Je représente parfaitement le Père. Alors pourquoi cette histoire? Parce que nous avons la même dynamique pour nous. Nous sommes censés avoir une autorité, un pouvoir délégué de Jésus, mais nous sommes censés représenter parfaitement Jésus. Quand Jésus a dit « Vous m'avez vu, vous avez vu le Père », les gens devraient pouvoir dire « Vous avez vu un tel, vous avez vu Jésus ». C'est quand même fort. Jean chapitre 20, verset 21, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il y a le parallèle. Le parallèle nous est donné dans la Bible maintes fois. De la même manière que moi, j'ai une relation avec le Père, disait Jésus. Il dit, voilà, moi je suis un avec le Père. C'est le Père qui m'a envoyé. Vous, c'est moi qui vous envoie. Vous êtes un avec moi. Alors, peut-être, quand on prie au nom de Jésus-Christ, on n'a pas trop de problèmes avec cette première flèche-là qui descend. Hein. Jésus délègue son autorité, son pouvoir, parce qu'on pense que, voilà, on est enfant de Dieu et il suffit de venir à Dieu, d'appuyer sur le bon bouton et Dieu délègue son autorité, son pouvoir. Et, sauf que quand on appuie sur le bouton, il n'y a rien qui sort. On se demande, mais on n'a pas compris ce que ça signifiait de prier au nom de Jésus-Christ ou de faire toute chose au nom de Jésus-Christ, comme représentant le Seigneur Jésus-Christ. Donc je répète, prier au nom de Jésus signifie représenter parfaitement Jésus, signifie également représenter parfaitement Jésus. Si je ne représente pas parfaitement Jésus-Christ dans ma façon de vivre et de prier, je ne prie pas au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, nos prières, ça ressemble un peu à ça parfois, comme mon illustration d'aller exploser un McDonald's ou d'agresser les gens, et puis après de dire au nom de la loi, je vous arrête, et d'être surpris qu'on n'a aucune autorité pour le faire. Ne soyez pas surpris. Je ne suis pas en train de dire que c'est la seule raison pour laquelle nous n'avons pas de réponse à nos prières, mais c'est une clé, c'est quelque chose qui est essentiel dans la compréhension de la prière. Alors, peut-être, lorsque je dis ça, représenter parfaitement Jésus, c'est un parallèle avec Jésus qui représentait parfaitement Dieu le Père. Eh bien, peut-être en disant ça, ça nous amène à nous pencher sur, justement, comment Jésus représentait le Père. Parce que ça peut nous aider à comprendre comment moi je dois représenter Jésus. Alors, je vous donne un tout petit peu de détails là-dessus. Désirer sa volonté. Désirer sa volonté. Jésus a dit, Jean chapitre 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus ne cherche pas sa volonté, mais la volonté du Père. D'ailleurs, il avait dit à un moment donné, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Imaginez ça. Ma nourriture, mon oxygène, vous me coupez ça, je ne vis plus. C'est ça ce qui me procure satisfaction dans la vie. C'est de chercher à faire la volonté de mon Père. Et alors, on se tourne vers nous et on se dit, mais est-ce que effectivement notre oxygène, est-ce que ce qui nous procure de la joie, c'est de faire la volonté de Jésus-Christ? Si on répond à ça, on a des éléments de réponse par rapport à la prière. Alors, lorsque je demande des choses à Dieu dans la prière, est-ce que je suis en train de demander quelque chose qui est sa volonté? Je peux me poser la question. George Muller, lui, il cherchait la confirmation qu'une requête était vraiment la volonté de Dieu avant de s'engager à prier pour la requête de manière persévérante. Et ensuite, il priait avec persévérance pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il reçoive ce qu'il avait demandé. La deuxième chose, dans ce petit cadre, représenter parfaitement Jésus, c'est désirer sa volonté. La deuxième chose, c'est imiter Jésus. Il s'agit de l'imiter. De la même manière que Jésus imitait Dieu le Père, nous avons besoin d'imiter Jésus. Je vous ai lu Jean chapitre 5, verset 19, en disant que... Peut-être je vous ai lu ce verset, je ne sais plus. Je vous le relis. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Jean chapitre 14, verset 9, Jésus dit, il dit à Philippe, qui voulait voir le Père, il lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Vous voyez ce que je disais un tout petit peu plus tôt, si vous êtes là aujourd'hui, les gens devraient pouvoir dire, mais l'amour de Jésus-Christ, il est démontré dans telle ou telle personne. Lorsque je vois cet homme, lorsque je vois cette femme, je vois Jésus-Christ. Si vous lisez le chapitre Jean de 14, on ne peut pas comprendre ce chapitre 14 sans comprendre la vérité que je viens de souligner ici, parce que à travers tout ce chapitre, qui nous dit justement, celui qui a vu Jésus a vu le Père. À travers ce chapitre, il est dit, le Père et moi, nous sommes un. Et il est dit aussi, les disciples et Jésus, ils sont un. Et au milieu de tout ça, il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le lien, il est là. Il est très fort. Et quand on comprend ce lien que je viens d'expliquer, on peut comprendre comment les idées sont reliées dans ce chapitre 14 de Jean. Jésus va dire, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Et un peu plus tard, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Et au milieu de tout ça encore, je répète, il va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dernière chose dans ce cadre, ça va de soi, mais je pense que c'est peut-être important de le mentionner tout de même. Il faut avoir une vraie conversion. Pour avoir cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut, à un moment donné dans sa vie, avoir compris l'Évangile. Jésus-Christ est venu sur la terre, pas juste pour être un bon exemple, mais il venait solutionner un problème insolvable, le problème de mon péché, parce que je suis pécheur, je mérite d'être séparé éternellement de Dieu, un Dieu saint. Et voilà que Dieu, dans son amour, savait qu'il était le seul à pouvoir amener une solution à cela. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix, mort pour moi, mort pour m'offrir la vie. Et si je crois, je reçois cette vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. Ça s'appelle une conversion. Mais je dis vraie conversion parce que il y a conversion et puis fausse conversion et vraie conversion. Il y a des gens qui peut-être vont croire cela, que c'est vrai, mais sans vraiment se tourner vers Dieu, sans vraiment le croire de tout leur cœur, vous savez. Les vraies conversions, ça se voit parce qu'on a un cœur reconnaissant envers Dieu, parce qu'on a envie de servir Dieu, parce qu'on a envie de le suivre. On se tourne de notre vie passée, on change, on tourne dans une autre direction. Et donc, c'est quelque chose d'essentiel ici. Représenter parfaitement Jésus, le point de départ, c'est forcément une vraie conversion. Et comme je l'ai expliqué à travers tout ce que l'on a dit, il y a plus que cela. Représenter parfaitement Jésus-Christ, c'est désirer sa volonté, c'est imiter Jésus. Et vous pourriez trouver d'autres choses à dire également. Alors, ce que j'aimerais dire en conclusion, j'ai une dernière chose que j'aimerais dire aussi avant la conclusion. La signification, c'est que cette prière au nom de Jésus-Christ a pour objectif, vous voyez, j'ai marqué ici, a pour objectif de glorifier Dieu. Je reprends, prier au nom de Jésus n'est pas une formule, signifie de le représenter parfaitement et également a pour objectif de glorifier Dieu. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est là, c'est souligné, afin que Dieu, le Père, soit glorifié. Et forcément, si c'est Jésus-Christ va répondre afin que Dieu le Père soit glorifié, eh bien, forcément, au départ, la requête doit être dans l'objectif de glorifier Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, que, on va dire, Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens, pardon, dans Jacques, alors je suis complètement à côté de ma citation ici, donc c'est Jacques qui va écrire et qui va nous dire au chapitre 4 de son épître au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc ça aussi, forcément, c'est une des raisons pour lesquelles certaines de nos prières n'ont pas de réponse. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire en conclusion ? J'aimerais dire tout d'abord quelque chose de très important, que je n'ai pas développé, mais qui est capital. Alors, écoutez bien, c'est très important. Certains prient sans vraiment comprendre la signification de prier au nom de Jésus et reçoivent des réponses. D'autres prient ayant des besoins profonds dans des situations tragiques et ne reçoivent aucune réponse. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que on peut savoir pourquoi souvent il n'y a pas de réponse. Cependant, il est possible que quelqu'un comprenne pleinement la signification de prier au nom de Jésus, le fasse correctement et pourtant ne semble pas obtenir de réponse. Et donc, je ne prétends pas traiter tout le sujet ce matin. Nous ne pouvons pas comprendre tous les mystères de la prière. Il nous faut l'aborder avec humilité, en attendant le temps de Dieu. Cependant, les versets que nous avons lus au début, ils sont vrais, à 100% vrais. Et donc, lorsque nous regardons le texte biblique, on a besoin de penser comme Dieu pense, on a besoin de suivre ce qui a été développé aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord qu'il y a une puissance, il y a des versets bibliques qui nous donnent des choses très fortes, hein, des promesses époustouflantes, c'est ce que j'ai développé tout au départ, et nous avons besoin d'arrêter de placer Dieu dans un cadre parce qu'il n'est jamais dans le cadre que nous imaginons. Et comprenons que Dieu veut et Dieu peut satisfaire à tous nos besoins. Il a promis qu'il le ferait, autant qu'il a choisi. Et le deuxième point que j'ai développé aujourd'hui, c'est la signification de prier au nom de Jésus-Christ. Ça n'est pas une formule. Ça signifie le représenter parfaitement. C'est une des significations, et c'est peut-être la signification, la clé que nous manquons bien souvent dans nos vies, et ça pour objectif de glorifier Dieu. Alors, je vous rappelle deux versets. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est notre objectif sur cette terre de glorifier Dieu dans ce culte, dans cette journée, dans cette vie, dans cette semaine. C'est notre objectif. Mais j'aimerais redire un autre verset qui est très beau aussi, que je vous ai donné tout au départ. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous avez vu qu'il y avait marqué ici, afin que votre joie soit parfaite. Je suis convaincu que nous avons besoin, en tant qu'Église, de venir à Dieu, d'imiter Jésus-Christ, de représenter Jésus-Christ, de prier ensemble, sachant que la clé est effectivement là, dans la représentation de Jésus-Christ. Ça, c'est ça, prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en faisant cela, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et la conséquence, c'est que notre joie sera extraordinaire. C'est pas fantastique lorsqu'on voit de la réponse de Dieu à la prière, quand on voit la main de Dieu dans nos vies, son intervention. Je veux dire, ça vous donne chaud au cœur. Vous avez envie d'être là, de dire Seigneur, gloire à toi, c'est fantastique. Tu es présent, tu es vivant dans nos vies. Apprenons donc à mettre en pratique, à prier au nom de Jésus-Christ, afin que notre joie soit parfaite. Prions ensemble. Notre Père, nous venons à toi avec un cœur humble, forcément en regardant à la loupe l'Écriture. On a du mal à pouvoir imaginer qu'on peut représenter Jésus-Christ sur cette terre. Aide-nous à le faire. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui est là à nous attendre derrière un coin de la rue pour nous redresser, nous corriger si nous fautons parfois, mais tu es un Dieu qui nous aime comme un père, qui va nous corriger d'une manière aimante, qui va nous donner sa grâce, qui va écouter nos prières. Aide-nous simplement à comprendre un peu plus la signification de prier au nom de Jésus-Christ. Pour te glorifier, pour que notre joie soit parfaite, te prions au nom de Christ. Amen.